Les voies de service, mercredi 27 février 2019. Bonjour, Isabelle Falardeau au micro, en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour, et bonjour, bonjour.
Avec toujours ce cher Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aux choix musicaux.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi, j'ai un sujet très léger et très agréable, mais c'est pas de ça que je vais vous parler en première partie. Je vais vous parler de trafic sexuel, d'une conférence, en fait, pour mieux comprendre le trafic sexuel des femmes autochtones. Et puis, de votre côté, vous allez avoir un sujet tout aussi léger, Daniel, en première partie?
Pas très léger en première partie, je dirais.
Une thématique.
Oui, un sujet qui revient, dont on aurait pu se passer, mais une poursuite contre un chanteur. En tout cas, je vous en parle.
D'accord. Une poursuite contre un chanteur. Et aussi, une chanteuse qui, elle, n'est pas poursuivie, mais bien...
Un record, oui. Assez intéressant à parler, oui, oui.
Excellent. Et de votre côté, Serge?
Je vais vous parler d'Herculanum. On connaît beaucoup plus Pompéi, la ville de Pompéi, qui a été anéantie par le Vésuve.
Oui.
Mais Herculanum a également été anéantie par le Vésuve là, au même moment. Mais on parle moins d'Herculanum, c'est plus Pompéi qui est dans nos esprits.
Eh bien, je pense qu'on va se coucher moins niaiseux grâce à vous, comme on dit. Merci. Et je commence tout de suite avec cet article de Jean-Philippe Nadeau que j'ai pris sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone. Première conférence sur le trafic sexuel des femmes autochtones, ça a été publié le 21 février dernier. C'est une conférence à Toronto sur la violence contre les femmes autochtones et le trafic sexuel qui a pour but de permettre de mieux comprendre le phénomène et de mieux le combattre. Et c'est une première du genre jamais organisée au pays. L'objectif est aussi de sensibiliser les forces de l'ordre au problème et c'est d'ailleurs une initiative de la police de Toronto, cette conférence. Et elle s'inscrit dans le cadre des efforts de la réconciliation nationale sur les femmes et les filles autochtones qui ont disparu ou qui ont été assassinées au Canada. À défaut de toutes les identifier, un mannequin vêtu d'une robe traditionnelle rouge a été placé sur l'estrade où les experts prennent tour à tour la parole. Et donc, on nous rappelle un peu de ce dont il a été question lors de ce colloque. Sonia Sewink est une de ces femmes qui ont été assassinées. Elle a disparu dans les rues de London en août 1994 avant d'être retrouvée morte 4 jours plus tard. À l'époque, elle avait 31 ans, elle était enceinte et toxicomane. Son meurtre est toujours inexpliqué à ce jour. C'est un véritable fléau, la disparition de femmes et de jeunes filles autochtones sont toujours plus fréquentes et les victimes toujours de plus en plus jeunes, nous explique la sœur de la victime, Maggie Sewink. Selon les conférenciers, l'âge moyen des Autochtones qui sont enlevés et assassinés est aujourd'hui de 13 ans. Et ça, c'est vraiment un chiffre qui m'a fait tiquer parce que quand on parle d'âge moyen, ça veut dire qu'il y en a de plus jeunes. La seule statistique que j'ai trouvée datait de 2010 et c'était pas ce que ça indiquait. Il y avait une forte concentration des 19 à 30 ans là, dans les groupes d'âge. Mais évidemment, en 8 ans, il peut se passer bien des choses. Alors, comme elle nous dit qu'elles sont de plus en plus jeunes, en tout cas, c'est certainement alarmant. Et Mme Sewink nous rappelle aussi que les relations entre les Premières Nations et les forces de l'ordre au pays sont délicates. Elle aimerait que les policiers comprennent mieux leurs familles et l'importance de les comprendre. Les femmes autochtones qui vivent en dehors des réserves et dans les grands centres urbains sont plus à risque. L'isolement de la communauté et la pauvreté les fragilisent davantage et certaines doivent se résigner à se prostituer pour survivre ou devenir des mules pour les trafiquants de drogue. Et alors, elles deviennent des proies accessibles et l'apparition des réseaux sociaux a fait en sorte qu'il est plus facile encore de les faire tomber dans les pièges des trafiquants, par exemple à cause de leur caractère anonyme de ces réseaux sociaux. Les conférenciers affirment que les femmes et les jeunes filles autochtones font face à des défis particuliers par rapport aux autres Canadiennes victimes de la traite de personnes ou de l'exploitation sexuelle. Colin Graham, de l'Association ontarienne des femmes autochtones, soutient que les ressources pour venir en aide à ces femmes sont beaucoup moins disponibles, en particulier pour les plus jeunes. Les proxénètes savent comment les trouver et les attraper dans les espaces publics. Publics, voyons. Là où Internet est gratuit, ou encore dans les refuges pour sans-abri, et comment exploiter leur vulnérabilité, comme leur traumatisme causé par des siècles de colonisation. Diane Radesk, du centre Mamawi-Wi-Chi-Itata, explique que les trafiquants vont les forcer à faire ce qu'ils veulent. Ils gagnent leur confiance en leur achetant des vêtements, des cigarettes, de la drogue, et elles doivent alors les payer en retour, et c'est à ce moment qu'elles sont entraînées dans le trafic sexuel, parce qu'ils ont un contrôle absolu sur elles. M. Graham précise que les efforts des autorités pour poursuivre les criminels en justice permettent aux survivantes de mieux panser leurs plaies et de tourner la page plus facilement, mais il existe plusieurs obstacles à franchir avant d'arriver à l'étape des tribunaux. Selon les conférenciers, il existe encore un travail d'éducation à faire pour bâtir des relations de confiance avec les corps de police. Mme Siwink, dont on parlait plus haut, aimerait par exemple que les policiers montrent plus d'empathie à l'égard des Autochtones. Quand vous entrez dans une famille sans afficher aucune émotion, ça ne facilite pas du tout les premiers contacts et elles vont vous percevoir comme un ennemi. À Toronto, la police a déployé des efforts en ce sens. En créant un poste d'agent de liaison pour les Autochtones, c'est le policier Randall Arsenault qui a été choisi pour occuper ce poste dans le quartier de Scarborough, qui compte la plus grande concentration d'Autochtones dans la métropole. Monsieur Arsenault est du même avis que Madame Radesk, selon laquelle le langage qu'on utilise à l'endroit de ces femmes dans la société doit changer. Par exemple, il préfère parler de victimes et non de prostituées, d'agressions contre des mineurs, de trafic sexuel forcé. Ce policier appartient à la nation Mi'kmaq, au Canada Atlantique, et il affirme que la conférence lui a permis d'en comprendre davantage sur les enjeux auxquels ces femmes sont confrontées. La partie de la conférence sur l'héritage des pensionnats autochtones, par exemple, l'a profondément marquée. Le chef de police de Toronto, Mark Saunders, estime que la conférence de 2 jours permettra de prévenir d'autres disparitions parce que les forces de l'ordre seront mieux outillées, selon lui, pour comprendre que ce trafic de personnes se produit en plein jour et à l'insu de tous. C'est ça qui donne froid dans le dos, hein, c'est que tous les jours, il y a des disparitions et puis on ne voit pas. En plein jour et à l'insu de tous, ben je trouve oui. que c'est frappant. Monsieur Graham ajoute aussi que tous ont la responsabilité dans la société de s'enquérir au sujet de ces femmes si jamais ils s'aperçoivent qu'elles sont dans le besoin ou en danger. Hein, on a tendance à détourner le regard, peut-être, mais peut-être qu'il faudrait justement faire attention. Madame Siwink reconnaît que la police fait son possible pour changer le comportement de ses agents. Je pense qu'elle est en train de réaliser qu'il s'agit d'un problème systémique. L'espoir de faire changer les choses, les mentalités, les comportements est maintenant réel. Selon elle, ça c'est une bonne nouvelle, elle ajoute toutefois que les communautés autochtones doivent elles aussi fournir leur part d'efforts et changer leur attitude à l'égard des forces de l'ordre. Elle conclut en disant que la collaboration doit aller dans les deux sens. Et de votre côté, vous nous parlez aussi de poursuites devant les tribunaux,
ouais,
Daniel.
Ben, je me suis un petit peu trompé tantôt. J'ai dit qu'on poursuivait la personne. C'est plutôt une famille qui poursuit. Je vais vous lire le titre.
Bon, allez-y, oui. Vous allez...
C'est un article que j'ai trouvé sur le site lefigaro.fr qui a été publié le 22 février. Les ayants droit de Michael Jackson veulent interdire un documentaire produit par HBO.
Ah, d'accord. Oui, c'est
on
donc c'est
un peu
le contraire.
Pourquoi.
Oui, c'est ça.
Les ayants droit de Michael Jackson ont entamé jeudi des poursuites contre la chaîne de télévision HBO, qui se prépare à diffuser un documentaire accusant le chanteur décédé en 2005 d'avoir commis des abus sexuels sur 2 jeunes garçons. Une plainte de 53 pages déposée auprès d'un tribunal de Los Angeles reproche à HBO de violer un accord de non-dénigrement qu'elle aurait signé en 1992 du vivant du roi de la pop et réclame jusqu'à 100 millions de dollars de dommages et intérêts.
Un accord de non-dénigrement, je ne savais
ouais,
pas que
aussi,
ça existait.
C'est un petit peu tardu comme ouais, histoire, mais Caroline. Bon. Malgré cette action en justice, la chaîne a réaffirmé qu'elle diffuserait, comme prévu, le documentaire « Leaving Neverland », présenté récemment au Festival du film de Sundance. « Michael Jackson est innocent, point », ont écrit les avocats des héritiers dans la plainte. Ouais. En 2005, Michael Jackson est passé en jugement et il a été relaxé par le jury, argumente le document. Donc, s'il a été relaxé par le jury, ça veut dire qu'il n'est pas coupable, c'est sûr.
Oui.
10 ans après sa mort, il y en a encore pour tirer profit de son succès mondial retentissant et chercher à exploiter ses excentricités, ajoute la plainte déposée par 2 exécuteurs testamentaires du chanteur à la tête de la fondation gérant les intérêts de ses héritiers. Le documentaire de HBO reprend les témoignages de deux personnes aujourd'hui trentenaires, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels commis par Michael Jackson alors qu'ils étaient respectivement âgés de 7 et 10 ans.
Colin.
Quand même, hein? C'est... les deux épisodes de Leaving Neverland, inspirés du nom du ranch construit par l'artiste en Californie, seront diffusés comme prévu les 3 et 4 mars, en dépit des tentatives désespérées pour discréditer le film. Nous ne changerons pas nos plans, affirme HBO dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. J'imagine qu'ils ont les moyens de payer pour une poursuite de 100 millions là, ou de négocier à la
c'est
baisse.
C'est ça, peut-être qu'ils comptent faire plus d'argent que ça avec la diffusion. Mais...
La diffusion permettra à tous les spectateurs de juger par eux-mêmes de la déontologie de notre travail, souligne la chaîne. La plainte dit se fonder sur un accord de non-dénigrement que HBO aurait signé en 1992 lors de la retransmission d'un concert de Michael Jackson à Bucarest. Selon les plaignants, cette clause juridique pourrait interdire encore aujourd'hui à la chaîne de nuire à la réputation de l'artiste. Michael Jackson, qui a raconté dans un documentaire, aimait dormir en toute innocence, selon lui, avec des petits garçons, a été à plusieurs reprises accusé d'actes pédophiles. C'est vrai que ça sonne drôle en partant.
Même
si on ne peut pas être témoin de tout ce qui se passe.
Ben, j'avoue aimer dormir avec mon fils quand il était
fils.
Un petit garçon.
Ouais.
C'est ça, c'était mon fils. Alors, ouais, c'est très...
Et en 1993, un adolescent de 13 ans portera plainte pour attouchement. L'affaire s'étant réglée à l'amiable contre 15 millions de dollars. En partant, quand tu règles pour 15 millions, je ne sais pas, peut-être en guise sous roche.
Ben,
mais bon.
Puis en même temps, c'est tellement pas une bonne idée de faire ça.
Ben,
je veux dire, même si tu aimes ça, même si c'est complètement innocent, il doit y avoir une partie de ton cerveau qui dit « Non, tu ne devrais pas faire ça. » Il y a des choses qu'on aime faire et qu'on ne devrait pas faire.
Peut-être.
Même si elles sont innocentes.
Oui.
Ouais, mais là, il est trop tard.
En 2005, Michael Jackson était passé en jugement à Santa Barbara pour des abus commis sur un autre mineur, mais avait été acquitté.
Bon. I'm telling you.
Michael Jackson et la pièce titre de son album de 1987, pas nécessairement à prendre comme un aveu de culpabilité. Bad.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et puis, vous allez nous parler, Serge, de ce voisin oublié, un peu, peut-être pas par les historiens, mais par le grand public, le voisin de Pompéi, Herculanum. Mm-hmm.
Oui, Herculanum. Alors, Herculanum est situé sur la côte ouest, sur le côté ouest du Vésuve, près de la mer. Et Pompéi, elle était à l'intérieur du côté est, avant de l'autre côté.
Et
c'est le côté est qui a été, qui a plus subi l'éruption du Vésuve au début, et après ça sur Herculanum.
D'accord.
Alors, c'est un article de la revue Historia, un numéro spécial d'octobre 2018, par Virginie Giraud. Vers 10 heures du matin, en ce 24 août 79, après Jésus-Christ, à Herculanum, une riche cité balnéaire située sur le flanc ouest du Vésuve, les habitants se précipitent dans les rues pour assister éberlués à la fureur de la montagne, d'ordinaire si paisible. Le bouchon de lave qui obstruait le cratère vient d'exploser. Une colonne de fumée et de débris pyroclastiques s'élève à plusieurs kilomètres de hauteur dans l'air estival. Le vent, venant du nord-ouest, pousse les matériaux volcaniques vers les cités d'Oplontis, de Pompéi et de Stabise, du côté est, où une pluie de cendres fines et de pierres ponce commence déjà à tomber. Dans le ciel clair d'Herculanum, c'est à peine si quelques lambeaux de cendres volettent dans les jardins ou s'accrochent aux cheveux des curieux. Rien de très alarmant pour le moment. Certes, depuis 4 jours, des grondements et des secousses telluriques perturbaient la quiétude du quotidien, mais rien ne laissait présager l'imminence d'une catastrophe. En début d'après-midi, les habitants d'Herculanum constatent que la colonne de fumée continue de grandir, masquant progressivement la lumière du soleil. La nuit semble tomber en plein jour et la mer s'agite déchaînée par le vent et les secousses sismiques. La stupeur des premiers instants passés, le temps des décisions survient. Faut-il quitter sa maison, tout abandonner pour s'éloigner du Vésuve en colère, ou rester et attendre patiemment le retour au calme? La fuite s'impose bientôt comme une fatalité. Dans l'après-midi, la plupart des habitants réunissent leurs biens les plus précieux dans des bourses, les femmes se couvrent de leurs bijoux qu'elles dissimulent sous des manteaux, plus de 4000 personnes se pressent sur la route en direction de Naples. Lorsque les fuyards se retournent, à l'instar d'Orphée remontant des enfers, les ténèbres les menacent. Ils pressentent qu'ils ne reverront plus jamais leur maison. Dans quelques heures, ils seront des réfugiés. Dans quelques mois, ils donneront le nom de leur ville disparue à un quartier de Naples. Plusieurs centaines de témoins refusent néanmoins de quitter la cité. Herculanum est une ville sûre. Les vastes demeures aristocratiques sont solides. Dans une chambre, une mère berce obstinément son enfant dans un lit de bois, ignorant que, 2000 ans plus tard, des archéologues tireront le corps de son petit trésor de la gangue de boue qui l'a emprisonné. Ouais. Mus par un instinct grégaire puissant, la majorité des habitants restés dans la cité se regroupent dans les salles voûtées au bord de la plage ou le long du rivage. Ce sont essentiellement des personnes âgées et des mères avec leurs enfants. Ouais. Ceux pour qui la fuite dans l'urgence par la route est la moins aisée. Ces salles se situent sous la terrasse des thermes et servent de hangar à bateaux ou d'évacuation des égouts. Les réfugiés accèdent à ces lieux par un tunnel et un escalier étroit. La descente vers la plage s'est vraisemblablement effectuée sans panique. Ils attendent à présent une accalmie qu'ils ne verront jamais. Vers 1 heure du matin, le 25 août, des éclairs zèbrent le ciel. Un vacarme assourdissant se fait entendre. Les réfugiés prient les dieux en serrant entre leurs doigts des amulettes, protection dérisoire contre la nature en furie. Dans l'obscurité, ils ne voient pas la mort s'approcher à la vitesse vertigineuse de 30 mètres secondes.
Wow.
Une partie de la colonne de fumée de débris pyroclastiques s'écroule sous son propre poids, provoquant une nuée ardente déferlant à 400 km/h vers Herculanum. Le choc est si violent que ceux qui se trouvent massés sur la plage sont jetés au sol. Et ils meurent sur le coup, leur chair s'évapore instantanément et les os, pardonnez-moi de le lire, là, les os de leur crâne se brisent comme du verre sous l'action de la chaleur infernale.
Wow.
Ouais. Et les 4 coulées successives ont enfoui la ville sous des mètres de débris volcaniques rapidement transformés en une roche solide, préservant en son sein plus de 300 corps, des gigantesques bâtiments, des meubles, des fripes textiles, des rouleaux de papyrus, des bijoux, des peintures et des bijoux. Aujourd'hui, Herculanum, à peine tiré de son linceul, ressemble à une capsule temporelle. Elle nous invite au rêve avec respect et humilité. Et moi, j'ai visité les deux, Pompéi et Herculanum, mais on voit effectivement dans les hangars, là, les gens là, vraiment pétrifiés dans la lave, là, qu'ils attendaient pour sortir. Ils n'ont jamais réussi.
C'est peut-être ce qui fait que ça a été qu'on a plus entendu parler de Pompéi, c'est que les gens ont un peu le temps carrément, ils sont carrément restés chez eux.
Ouais.
Ils ont été pris dans l'action de leur vie quotidienne, puis c'est peut-être ça qui fascine un peu plus.
Ah ben oui, c'est sûr, ouais. Mais quoi, ça n'a pas été durant une heure, là, ça a duré 24 heures.
Oui,
parce que tu ne sais jamais quand arrive une catastrophe.
Non, effectivement.
Tu sais, ici, on est pris dans une tempête, mais ça va dans 5 minutes, ça va être correct, ou une heure. Mais...
À moins que tu sois sur l'autoroute 13.
Hein. À moins que tu sois sur l'autoroute 13, exactement.
Merci beaucoup, Serge. Alors, sujet un peu plus léger maintenant, Daniel.
Oui, vous connaissez, vous vous souvenez de la chanteuse Ariana Grande, dont on a parlé récemment, l'histoire des tatouages.
Ah, j'ai peut-être manqué ça.
Ah, vous n'étiez pas là.
Vous étiez là, Isabelle. Mais j'ai lancé ça comme brève en toute fin d'émission, secondes.
Oui, voilà. je me souviens.
Donc, pour résumer, elle s'est fait faire un tatouage du nom de son album en japonais. Et puis, la première version...
Finalement, c'était pas les bons. C'est pas ce qui était écrit.
Au lieu d'être Seven Rings, c'était écrit Petit Barbecue. Puis, elle s'est faite corriger par la suite par un autre tatoueur. Et puis, on s'est pas rapproché du bon résultat.
Faut effacer ça, sinon on ampute la main.
Mettre une fleur par-dessus.
Mais là, on parle d'elle pour une autre raison aujourd'hui. Là. Un article que j'ai trouvé aussi dans lefigaro.fr. 3 titres d'Ariana Grande au sommet des ventes, une première depuis les Beatles. Ça veut dire que là, 3 titres en même temps.
C'est jamais arrivé depuis les Beatles.
Depuis 1964.
Ça fait un petit bout de temps, ça. J'étais pas née, moi.
La chanteuse Ariana Grande signe un triplé historique.
Wow.
Cette semaine, elle occupe les 3 premières positions du palmarès Billboard. C'est le classement des ventes de disques aux États-Unis. Mm. Avec ses chansons Thank You Next, Break Up With Your Girlfriend et Seven Rings. Avec ce tour de force, elle égale un record détenu par les Beatles depuis 1964. Quand même, ça n'a jamais été fait depuis ce temps-là, oui. Ces 3 titres sont issus de l'album Thank You Next, qui s'est hissé au sommet des ventes dès la première semaine de sa sortie. C'est la première fois qu'un artiste prend le contrôle du podium depuis les Beatles en 1964. Ils y étaient parvenus cette année-là durant 5 semaines. Depuis, aucune star en solo ou en groupe n'avait réussi pareil exploit depuis la création du classement en 1955. Thank You Next est resté 7 semaines en tête des ventes de titres musicaux aux États-Unis. C'est maintenant au tour de Seven Rings d'enchaîner sa 4e semaine en numéro 1. Ariana Grande a déjà vu 13 de ses chansons intégrer le top 10 et 4 de ses albums atteindre la première place. Quand même bien.
C'est quand même pas négligeable.
Durant sa première semaine, l'album Thank You Next a été écouté sur des plateformes musicales 307 millions de fois. Ça doit être un peu payant, ça. Ça doit commencer.
Au moins 10-15 $.
Un record pour un album pop. Elle a récemment reçu son premier Grammy Award pour son opus Sweetener. À 25 ans, la pop star enchaîne albums, records et récompenses. Ses triomphes lui feront peut-être oublier les tristes années 2017 et 2018, marquées par le terrible attentat de Manchester. Je sais pas
si vous
vous souvenez.
C'est vrai, ça, elle était là.
Et la perte de son ex-petit ami Mac Miller. Ce sont certainement ses malheurs qui lui ont inspiré Thank You Next, ce disque aux accès plus sombres, mais qui laisse entrevoir un nouvel élan optimiste. Et juste une autre petite note, les Beatles à l'époque, quelques semaines après, on dit qu'ils y étaient parvenus cette année-là durant 5 semaines différentes, et le 4 avril 1964, ils occupaient les 5 premières
les
places.
Les 5 premières places!
Les positions 5, 4, 3, 2, 1, c'était 5 chansons des Beatles. En même temps.
Alors pour,
ce record-là, il n'est pas encore
battu. Je vous donne un travail pour la semaine prochaine,
oui.
Daniel. C'était quoi les 5 chansons?
Je vais
ajouter ça dans ma playlist.
Oui.
Là. Merci. Serge.
Une petite brève. La première fois qu'on a utilisé de l'engrais, risqueriez-vous une date?
Où?
C'était en été.
Oui, probablement.
Ou non, peut-être au printemps.
C'était en Europe il y a 8000 ans. Comment le sait-on? Ben, une équipe de l'Université d'Oxford, dirigée par l'archéobotaniste Amy Bogart, a analysé 2500 grains de céréales et graines de légumineuses provenant de 13 sites néolithiques, de la Grèce au Danemark en passant par le Royaume-Uni, et bon, ben, rien que ça, dans le bon échantillonnage. Oui, oui. Ils ont cherché dans ces échantillons des traces d'azote 15. Pourquoi l'azote 15? C'est que son taux est très élevé dans le fumier animal et donc dans les plantes qui y poussent. Alors, l'analyse confirme l'usage de fertilisants sur les sites étudiés. Bon, comment les hommes ont-ils eu l'idée d'utiliser de l'engrais, il y a 8000 ans? Mm-hmm. C'est en observant la nature. Parce que, en même temps que il y a 10000 ans, en même temps que l'agriculture, nos ancêtres se sont aussi mis à élever des bêtes. Ben, ils ont probablement simplement constaté que les terres sur lesquelles il y avait des animaux, donc du fumier, étaient plus fertiles que les autres. Aussi simple que ça.
L'herbe est toujours plus vert, le gazon est toujours plus vert au-dessus de la fosse septique.
Oui.
Merci beaucoup, Serge. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie de notre émission aujourd'hui. On vous revient après une courte pause. Les voies de service, deuxième partie. Et en cette deuxième partie, moi, je vais vous parler de poupées et de thé. Je ne sais pas si vous avez une idée de c'est quoi le lien entre les poupées et le thé. Alors ça, moi, je n'avais aucune idée. Je trouve ça très intéressant. Et puis, de votre côté, Daniel...
Vous vous souvenez pas de ça. Vous étiez même pas né. une série... dans les années 60, sur un faux band, dans le fond, qui est devenu un vrai band. Je vous parle de ça.
Ah, ben ça vous m'intriguez, en tout cas. Et puis, de votre côté, Serge?
Moi, je vais vous parler de Léa Robac.
Ah,
une
oui.
Une féministe communiste et libre.
Ça va être très intéressant, très varié,
puis,
comme toujours.
Et ensuite, j'ai des petits sujets.
Parfait, merci beaucoup. Hey, on va commencer tout de suite avec ce féminisme communiste.
C'est un article paru dans la revue L'Itinéraire du 18 de cette semaine. Alors, par Isabelle Raymond, qui est camelot au métro Joli Cœur. Alors, Léa Robac, féministe, communiste et libre, c'est le titre. Léa Robac, qui a vécu de 1903 à 2000, donc elle a vécu 97 ans.
Quand même.
Ouais. Était une communiste et une féministe engagée. Elle ne s'est jamais mariée afin de rester libre à une époque où la femme devait être docile et faire de ce que son mari lui dit. Voilà. Elle était... Ah, le temps béni. Je vais me faire arracher la tête à un moment donné, je pense.
Il y avait pas juste les femmes qui étaient persécutées à cette époque.
C'était tout un temps. Elle était pour l'égalité homme-femme, pour des meilleures conditions de travail, en faveur de l'accès à l'éducation, contre le racisme, l'homophobie et les inégalités sociales. Même si elle est née à Montréal au début du siècle dernier, Léa Robac a vécu majoritairement son enfance à Beauport, dans les environs de la ville de Québec. Ses parents, Moses et Fanny Robac, étaient des immigrants juifs d'origine polonaise. Ils tenaient un magasin général et ont eu 9 enfants. Léa Robac parlait couramment 3 langues, français, anglais et yiddish. Beaucoup plus tard, elle apprit l'allemand. Elle a grandi dans un milieu plutôt modeste. En 1915, sa famille retourne vivre à Montréal et à l'âge de 14 ans, elle travaille dans une teinturerie comme réceptionniste. Elle gagne des sous et en 1926, Léa Robac alla étudier la littérature à l'Université de Grenoble, tandis que son frère Henri était étudiant en médecine à Berlin. Elle décida de le rejoindre en 1929. En plus d'enseigner, elle était très impliquée dans la lutte contre le fascisme face à la montée du nazisme. Étant juive et communiste, il était dangereux pour elle de rester en Allemagne. Les deux.
Oui, c'était pas une très bonne époque pour décider d'aller en Allemagne.
Non. Et en plus, les deux, juives et communistes. Oui.
Ouais.
Elle quitte le pays en 1932. Pendant 2 ans, elle travailla au Young Women's Hebrew Association et dans une école spécialisée en délinquance à New York. En 1934, elle retourna vivre à Montréal pour s'occuper de la librairie marxiste Modern Bookshop, qui était située sur la rue de Bleury. Elle travailla par la suite à 2 reprises avec le
Je connais cette librairie. Oui? Je veux dire, j'ai connu le propriétaire. Non, ça fait très longtemps.
C'est entre, je pense...
Mais ça n'existe plus aujourd'hui, je pense.
Il y en a une entre Sherbrooke et Ontario. Et qui m'a toujours intrigué.
C'était comme un antre d'Alibaba pour les amateurs de livres. C'était vraiment...
Alors, elle travailla par la suite à 2 reprises avec le candidat communiste Fred Rose, une première fois aux élections fédérales de 1935, puis pour celle de 1943 comme organisatrice politique, élection que Rose remporta. Candidat communiste. En 1936, le Québec était dirigé par un gouvernement anticommuniste et conservateur de l'Union nationale qui avait pour chef... Maurice Duplessis,
oui, j'allais dire Maurice Richard.
Les livres de la librairie de Léa Robach furent saisis par des policiers à répétition. C'était une époque où les boutiques tenues par des Juifs, dont la librairie où travaillait Léa, étaient vandalisées.
Ah
toujours en 1936, pendant la crise économique, les conditions de travail et financières des ouvriers se détérioraient. Les femmes qui travaillaient dans l'industrie du textile se faisaient exploiter. L'Union internationale des travailleuses du vêtement pour dames désirait réformer cette industrie dans plusieurs grandes villes canadiennes et l'organisatrice Rosa Pesotta fut alors envoyée au Canada par le syndicat dont le siège social était situé à New York, mais elle ne parlait pas français. Léa Robach fut son assistante, une aide précieuse puisque plus de la moitié des travailleuses étaient francophones et que les autres étaient majoritairement juives. Une grève de 3 semaines, surnommée la grève des midinettes et rassemblant 5000 femmes, sera déclenchée. Au fédéral, les femmes obtinrent le droit de vote en 1918. Si les provinces canadiennes emboîtèrent rapidement le pas, le Manitoba fut même avant-gardiste en faisant ce changement en 1916, le Québec ne l'autorisa qu'en 1940. Léa Robach collabora évidemment à cette lutte auprès de Thérèse Casgrain. Dans les années 60, elle se joignit à nouveau à Mme Casgrain pour défendre un autre droit, celui de se faire avorter de façon sécuritaire sans être incriminée, ainsi que pour l'accès à la contraception. En plus de Léa Robach, des figures importantes telles que Simone Monet-Chartrand, Jeanne Sauvé et Solange Chaput-Roland se sont jointes à l'organisme La Voix des femmes créé par Mme Casgrain. Et en 1969, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, était criminelle au Québec en 1969. La femme qui avait recours à cet acte, de même que la personne exerçant l'avortement, était emprisonnée pour une peine qui pouvait aller jusqu'à la prison à vie pour un professionnel de la santé.
Incroyable.
De 1969 à 1988, l'avortement fut permis uniquement si la vie ou la santé de la femme était en danger. C'est seulement à partir de 1988 que l'avortement ne fut plus puni par la loi. Et en 1986, malgré son grand âge et une journée pluvieuse, elle avait 80-quelques années à ce moment-là, elle a marché auprès des femmes pour l'équité salariale.
Eh bien, et voilà. Merci beaucoup, Serge. Mm-hmm. On poursuit avec un sujet musical, une mauvaise nouvelle,
mais en même temps,
une façon
chose...
de se rappeler de quelqu'un qu'on avait peut-être un peu oublié.
Un petit peu de nostalgie pour ceux qui ont connu cette époque-là. Un article que j'ai trouvé dans Rolling Stone magazine, Peter Tork, chanteur et bassiste du groupe The Monkees, est décédé. Âgé de 77 ans, le musicien Peter Tork était un des membres fondateurs du groupe jusqu'à leur récente réunion. C'est Anne Torkelson, sœur du musicien, qui a annoncé la triste nouvelle ce jeudi au Washington Post. Les causes du décès n'ont pour le moment pas été révélées. Jouant la carte du crédule au sein des Monkees lors de leur début à la télévision américaine, le groupe ayant été recruté en premier lieu pour tourner un film équivalent au Hard Day's Night des Beatles, c'est un peu une copie américaine du groupe
des Beatles.
C'était
comme on va se faire des Beatles nous aussi.
Absolument, absolument. C'est les gars qui avaient répondu à... une audition, une demande d'audition, puis bon. Peter Alston Torkelson, de son nom complet, était avant tout un musicien érudit, guitariste et bassiste à l'origine de plusieurs morceaux du groupe, dont For Pete's Sake, qui était le thème final de l'émission à l'époque.
D'accord.
Originaire du Connecticut, Peter Tork fut un acteur majeur de la scène folk de Greenwich Village au début des années 60, une période durant laquelle il rencontra un certain Stephen Stills, que vous connaissez du groupe Crosby, Stills and Nash, et Crosby, Stills,
oui,
Nash and Young.
And Young, oui. Ouais.
Une fois à Los Angeles, ce dernier, devenu son ami, lui parla du casting pour recruter un groupe ressemblant aux Beatles. Il s'apprêtait à former le groupe aux côtés de Mickey Dolenz, Michael Nesmith et David Jones. Ça, Serge, vous vous souvenez peut-être d'une émission dans le début des années 60, fin des années 50, début des années 60, de Circus Boy, l'enfant du cirque. Non?
Non.
Petit blond, l'émission commençait, un petit gars sur un éléphant, en tout cas.
Ah oui, 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 ça, oui, ben, je me rappelle, oui.
C'est lui qui est devenu plus tard un des musiciens des Monkees aussi.
Eh ben.
Dès son lancement en septembre 1966, la série télévisée The Monkees connut un énorme succès, porté par des singles comme Last Train to Clarksville et I'm a Believer, très connu, qui a été reprise dans le film,
oui,
Shrek.
Oui, c'est
pas eux qui l'ont écrite, par exemple, faut le préciser.
Ils l'ont interprétée.
Ouais, c'est une chanson de Neil Diamond, mais qui a été connue par les Monkees.
Mm-hmm.
Après deux albums sur lesquels ils n'eurent que peu d'influence, parce qu'eux ne faisaient que chanter, ils composaient pas beaucoup, quelques-uns, là, mais ils faisaient surtout
c'est
chanter.
C'est un peu comme les New Kids on the Block de
genre,
l'époque.
Ouais, parce que c'était des musiciens de studio qui enregistraient la musique et eux ne faisaient que chanter leur partie.
Ah oui.
Donc, après deux albums sur lesquels ils n'eurent que peu d'influence, les Monkees enregistrent quasi seuls Headquarters, leur troisième album, qui atteindra le sommet des charts en mai 1967, dépassé une semaine seulement après par Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ah, les maudits Beatles, hein?
Mettons qu'il n'était pas de taille. En plein Summer of Love, Peter Tork tomba dans les excès de l'époque, contrairement à ses collègues. Son manoir devint le repère de Jimi Hendrix, David Crosby ou encore Mama Cass Elliot, entre autres. Quelque temps après la sortie du film psychédélique Head en 1968, Peter Tork quitte les Monkees se disant épuisé. Ce qui le tracassait avant tout, c'était de ne pas être pris au sérieux par les critiques de l'époque qui ne voyaient son groupe que comme un boys band pour enfants. C'est vrai que
pour
leur clientèle, c'était pas mal les 10-13 ans. Là. Fait que,
ah oui.
On s'entend que pour un musicien, ça peut être un
non,
peu...
Non, je comprends.
Au milieu des années 80, les Monkees suscitent un regain d'intérêt grâce à MTV, entraînant le groupe à se reformer pour une série de tournées particulièrement lucratives, jusqu'à ce que Peter Tork quitte brutalement le groupe en 2001, sans explication. Diagnostiqué avec un rare cancer de la langue en 2009, il se rétablit complètement et reforme les Monkees en 2011 pour une tournée événement 10 ans après la précédente. En 2016, le groupe fête son cinquantenaire avec l'album Good Times et sort son premier album de Noël en 2018.
Eh ben.
Avec une seule et unique contribution au disque, les rumeurs concernant l'état de santé de Peter Tork commencèrent à prendre de l'ampleur. En octobre dernier, il rassurait ses fans via Facebook, invoquant une santé requérant un peu plus d'attention ces derniers jours. Pour le reste, merci pour vos messages. Je ne publierai plus pendant quelque temps.
7A. What number is this, Chip?
7A.
Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen?
You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do we really need?
Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean
Probablement la deuxième pièce la plus connue des Monkees après I'm a Believer, on vient d'entendre Daydream Believer.
Alors bon, on believait beaucoup
un groupe
avec
de croyants,
les Monkees, oui, c'était des croyants. Et moi, je vous amène dans le nord, chez les Inuits. C'est un article qui fait changement un peu là, des choses qui suivent l'actualité dont je vous parle généralement. Et j'ai pris ça sur le site L'Heure de l'Est, qui est un magazine de l'Est du Canada que je découvre en même temps que je découvrais cet article-là et qui est très intéressant. Je vais y retourner sûrement. Alors, le titre de l'article de Françoise N. Guérard, c'est « Des poupées et du thé ». Et il a été publié le 18 février dernier.
Curieux titre.
Ben oui, ça mais c'est qu'on nous parle justement des Inuits qui sont installés sur le territoire au Labrador et au nord du Québec depuis des dizaines de... depuis des milliers d'années. On dit des dizaines de milliers d'années, si ça fait, ça me semble beaucoup, mais... Je suis pas historienne, là, en tout cas, mais clairement des milliers d'années. Et ils sont de tradition nomade. Ils parcouraient autrefois des milliers de kilomètres pour la chasse et la pêche. Et quand on vit en perpétuel mouvement sur un énorme territoire, tout ce qu'on transporte se doit d'être utile, y compris les jouets. Alors, malgré leur sédentarisation forcée qui remonte à la première moitié du 20e siècle, les Inuits continuent de courir les bois. Selon les saisons, ils se déplacent sur leur territoire, sans égard aux frontières entre le Québec et le Labrador, à la poursuite du caribou ou de la perdrix. En famille, ils campent dans des tentes de simple toile qui semblent bien légères et qui pourtant les protègent du froid intense. Dans cet environnement qui est le leur depuis des siècles, ils continuent à perpétuer les coutumes et les traditions de leurs ancêtres liées à la vie quotidienne, à la chasse, à la pêche et à la nature. Imaginez vivre sous une tente et vous déplacer au gré des aléas de la chasse, à pied, bien entendu, avec des raquettes durant l'hiver, hommes, femmes, bébés, enfants, aînés. Inutile de préciser que vous n'emporteriez que l'essentiel. Les toiles qui formeront votre abri, le petit poêle et la cheminée en tôle qui vous éviteront de mourir de froid, le strict minimum en termes de vêtements, de quoi coudre, chasser, de quoi pêcher, faire des trappes. Peut-être un soupçon d'intendance, de la farine, du sel, de la levure pour faire la bannique, le pain traditionnel de la majorité des Autochtones du Canada, du sucre et du thé, complément indispensable de tout repas. Tout le reste viendra de la terre, les poteaux pour les tentes, les branches de sapin pour confectionner le plancher qui vous isolera de la neige et de la glace, les baies sauvages, les truites, le saumon, la perdrix, le caribou. Dans ces circonstances, vous en conviendrez, il importe que chacun fasse sa part pour le bien collectif. Alors, pour que même les enfants participent au transport des biens de première nécessité, les Inuits ont eu l'idée de confectionner des poupées de chiffon dans lesquelles les feuilles de thé serviraient de rembourrage. On appelle ce jouet « inikue ». I-N-N-I-K-U-E-U. Le thé qu'on y dissimulait était réservé aux coups durs, à ces mauvais moments où les vivres venaient à manquer. Rendu à la dernière extrémité, on enlevait alors le thé d'un bras, d'une jambe, de la poupée pour réchauffer toute la famille. Plus tard, on rembourrait de nouveau la poupée avec de la mousse séchée jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un poste de traite ou, selon l'époque, au magasin général pour refaire des provisions de thé. La poupée de thé remplissait donc ses deux fonctions essentielles, d'amuser les enfants et de garder au sec une précieuse réserve de survie. Aujourd'hui, ces poupées traditionnelles constituent surtout un trésor patrimonial sur les traditions vestimentaires des Inuits, sur leur manière d'emmailloter les bébés et sur le tannage et le fumage de la peau de caribou utilisée pour le visage, les mocassins et même pour la confection de la coiffure. Et l'article est accompagné d'une très belle photo où on voit effectivement... une poupée maman avec son bébé emmailloté. Et, c'est vrai que c'est une excellente illustration là, du savoir traditionnel. Dans la communauté de Chechatillo, au Labrador, la grande artiste des poupées de thé s'appelait Anishen Anten, ou Angela Andrew pour nous les Blancs. Elle savait mieux que quiconque réaliser des poupées habillées à la façon traditionnelle et leur donner un regard expressif avec quelques simples points de broderie. Ces poupées étaient tellement prisées, d'ailleurs, qu'elles ont été offertes au pape Jean-Paul II, à la reine d'Angleterre et au président George W. Bush.
On ne rit plus.
Eh oui. On les trouve également dans les musées, comme celui des Roumes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et chez certains particuliers qui ont eu la chance de les acquérir directement de Angela, c'est le cas de l'auteur, ou dans certaines galeries d'art ou d'artisanat. Si vous en avez une, gardez-la précieusement, car Anishin vient de nous quitter, à l'âge de 72 ans, laissant derrière elle un patrimoine inestimable. Fort heureusement, au sein de sa grande famille se trouvent plusieurs femmes déterminées à perpétuer l'art de leur mère et de leur grand-mère, comme une de ses petites filles, Victoria. Et si vous voulez en savoir plus sur la tradition des poupées de thé, l'article est accompagné d'une courte entrevue donnée à qu'a donnée plutôt Peter Armitage, qui connaît bien les traditions du peuple Innu. C'est disponible sur YouTube. Alors, si vous faites une recherche « Entrevue Peter Armitage », vous allez trouver.
Petite question, j'ai bien compris, c'est que on enlevait une partie de la poupée pour faire le thé?
Ben, c'est qu'on vidait le bras ou la jambe.
Oui, mais l'enfant,
c'était...
C'est
pour ça que c'était des réserves. Quand la réserve principale de thé était... On était vraiment dans une période... Et je pense que l'enfant devait être fier de pouvoir fournir le thé pour ses parents à cette occasion-là.
Mais
oui, il y avait...
imagine des scènes, là.
Oui, ben je sais pas. C'est une bonne question, en tout cas. Serge, vous avez plusieurs petits sujets pour nous.
Connaissez-vous Alan Turing?
Ben oui, c'est celui qu'on dit qui est l'inventeur de l'informatique, là,
exactement.
Qui a décrypté les codes des méchants pendant la guerre.
Alors, c'est un article paru dans la revue Fugue, celle qui va apparaître au mois de mars. Alors, le père de l'informatique, Alan Turing, désigné figure majeure du 20e siècle. Alan Turing, le pionnier de l'informatique et aussi homosexuel, qui déchiffra les messages allemands codés pendant la Seconde Guerre mondiale, a été désigné en Grande-Bretagne comme la plus grande figure du 20e siècle par un concours public.
Ah oui?
Oui, Alan Turing a remporté le vote public devant Martin Luther King, Nelson Mandela, Ernest Shackledown, David Bowie, Muhammad Ali et Pablo Picasso.
Caline.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé pour déchiffrer les codes allemands utilisant Enigma, la machine à encrypter, ce qui permettait aux Allemands d'envoyer des messages codés, secrets, et il a permis aux Alliés, donc, de pouvoir décrypter ces messages-là. Évidemment, ben là, c'est un gros avantage quand vous êtes en guerre, de savoir, de connaître les messages de l'ennemi. Cette découverte a largement conduit à la fin de la guerre, plus tôt que prévu. J'ai déjà entendu, je pense, un an ou deux de moins de guerre.
Et donc, des milliers de morts évitées, forcément.
Millions.
Oui, des millions même, oui.
Alan Turing, souvent salué comme le grand-père de l'informatique moderne, a été condamné pour, en 1952, avoir eu des rapports sexuels avec un homme. Il a été castré chimiquement, interdit de travailler et conduit au suicide. C'est-à-dire qu'on lui a donné, si je me rappelle bien d'avoir vu dans le documentaire, là, c'est qu'on lui a donné la possibilité, soit on vous castre chimiquement ou soit on vous emprisonne parce que vous avez eu une relation homosexuelle. Et il a choisi la castration. Oui, rejeté et persécuté de son vivant, il est à présent fréquemment cité comme l'un des héros les plus célèbres de l'histoire britannique. Il a été gracié à titre posthume par la reine Elizabeth en 2013 en reconnaissance de son travail. Chris Packham, présentateur télé de la série Icons, a prononcé un discours passionné pour le travail de Turing lors de la divulgation du choix du public. Face à la catastrophe mondiale, il a construit un ordinateur pour transformer le chiffrement en chansons et les mystères en musique. Les machines nazies Enigma n'étaient pas à la hauteur de sa ruse, a-t-il déclaré. C'était un génie, un sauveur, mais il était aussi autiste et gay. Et nous l'avons trahi et conduit au suicide, a regretté Chris Parkin. Et tout ce qu'il a reçu pour son travail était une pomme empoisonnée. Un tatouage impitoyable sur la conscience de l'humanité, rien de moins. encourageant les membres de l'auditoire à sortir leur téléphone intelligent, il a ajouté « Dans chacune de vos mains, vous tenez un peu d'Alan Turing. Il est avec nous quand nous nous levons, il est avec nous quand nous allons nous coucher le soir, et il est avec nous quand nous parlons à nos proches. C'est beau, n'est-ce pas? »
Et merci. Mm-hmm. Il était vraiment en bonne compagnie dans ce sondage,
oui.
quand
oui,
même.
Oui, oui. Mm-hmm. Alors, à l'intention de Jean-Sébastien, notre ami en régie, chocolat addict.
Ah, il aime le chocolat, j'ai... Jean-Sébastien.
Ouais. Oui, oui.
Alors,
vous avez du chocolat, Serge?
Non, je n'ai pas de chocolat. J'en amène assez comme ça, là-bas.
Il va peut-être vous dire que c'est bon pour la santé ou non?
Pas le
non,
carême,
mais
là,
Jean-Sébastien...
oui?
Une question.
Connaissez-vous Laura Secor?
Oui.
Bon, de alors, nom. Je vais vous parler de Laura Secor. Symbole du patriotisme canadien, cette femme courageuse a parcouru 30 km à pied le 22 juin 1813 pour avertir les troupes britanniques du Haut-Canada que l'armée américaine se préparait à attaquer la péninsule du Niagara. Laura Secor avait entendu ses propos de la bouche même de soldats américains entrés à l'improviste chez elle pour se faire nourrir. Un peu éméchés par l'alcool, ceux-ci ne se rendaient pas compte que la jeune femme qui les servait n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Le geste de bravoure de Laura Secor n'a été reconnu qu'en 1860, alors qu'elle avait 85 ans, par le prince de Galles, Édouard, le futur Édouard VII, le fils de la reine Victoria, qui était en visite au Canada.
Ah ben, au moins, ça est reconnu de son vivant.
Qu'est-ce que tu fais donc, chanter?
René Simard, qui d'autre pour nous?
Je ne sais pas si ça existe encore, les puddings, Laura Secor, ça doit.
Oui.
Oui.
Ça semble, oui.
À suivre.
Je vous donne le choix. Vous avez le choix entre d'où vient le yogourt, ou quelle est l'origine des croustilles, ou la création des oursons en gélatine.
Les oursons.
Ah, ben bon.
On y va avec les oursons.
Le premier ourson en gélatine date de 1922. C'est l'Allemand. Hein?
Il doit plus être bon.
On parle des gummy bears, comme diraient nos cousins français.
Alors, c'est l'Allemand Hans Riegel qui en a eu l'idée en regardant les ours danser dans les foires. Ouais, bizarre comme.
je regarde un ours danser, je me dis, ah, ça serait bon à manger. Ouais,
on prend notre inspiration où on veut. Cette friandise est rapidement devenue l'une des plus célèbres du monde. Aujourd'hui, 100 millions d'oursons en gélatine sont produits chaque jour. Pas chaque année, chaque jour. C'est beaucoup.
Ah, wow.
Là, voulez-vous les yogourts ou les croustilles?
Les croustilles.
Oh, ben, vous n'êtes pas santé.
Non.
George Crum était cuisinier au restaurant Carrie Moon's Lake House à New York. Après qu'un de ses clients capricieux se fût plaint de ses frites trop épaisses, Crump lui coupa ses patates en tranches extrêmement fines juste pour lui tenir tête. Quintoué. Ah, ben, le client fut ravi. Ce 24 août 1853, Crumb venait de populariser les croustilles, les fameuses chips dont la recette existait déjà, dit-on, dans un livre de 1832. Crumb gagna assez d'argent en vendant ses Saratoga chips pour ouvrir son propre restaurant en 1860.
Comme c'est
bon de te tenir tête à quelqu'un, des fois.
Eh oui, puis des patates, c'est toujours bon, peu importe comment on les apprête. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Lachance, Serge Bradet. Merci à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde. Et moi-même, Isabelle Falardeau, eh bien, je vous laisse en compagnie de François Brodeur, qui remplace aujourd'hui Hélène Denis à la barre du quotidien. Des quotidiens. Bonne journée.